comme l'a prouvé Jean Starobinski dans un livre admirable, le XVIIIe siècle a inventé la liberté. Liberté du savoir face à la religion, liberté du citoyen face au monarque, liberté d'un peuple, le peuple américain, face à l'anglaise nation colonisatrice, liberté de l'auteur, qu'il soit écrivain ou journaliste, face à la censure, liberté de l'artiste, jusqu'alors contraint d'imiter l'Antiquité, liberté du jardinier, jusqu'alors obligé de tenir les rênes très courtes à la nature, au lieu de la laisser vivre, liberté du commerçant, jusqu'alors empêché par les octrois, les frontières internes et les privilèges, liberté de l'entrepreneur, prisonnier des corporations, et bien d'autres libertés. À commencer par celle de penser, contre toutes les autorités, celle de tout explorer pour étancher une inépuisable curiosité, liberté de toucher à tout, mais pour quelle raison s'en priver, puisqu'on est touché partout? Sans oublier, il va sans dire, la liberté de ses mœurs. S'il n'est plus tout à fait sûr que Dieu existe, pourquoi, mais pourquoi donc réfréner ses désirs? Et de quel juge devrions-nous avoir peur? Choisir la liberté ne va pas sans dommage. En s'affranchissant de toute règle, la société peut avancer vers un autre arbitraire, l'arbitraire de la violence, voire de la terreur. Tandis que l'homme privé, jouissant soudain sans entrave, pourrait bien causer sur ses proches quelques dégâts. En même temps qu'il va découvrir le corollaire obligé de la liberté, la solitude. De cette formidable aventure de la liberté, Beaumarchais est l'incarnation même. De toutes les libertés, il aura fait le pari, à ses risques et périls, 100 fois ruiné, 101 fois refait. Glorieux un jour, vilipendé le lendemain, ami du roi le lundi, emprisonné le mardi, désespéré d'amour le mercredi, ressuscité pour une autre le jeudi, sifflé le vendredi tant sa pièce de théâtre était nulle, acclamé pour un chef-d'œuvre le lendemain et tous les siècles à venir. Que dire de sa vie? Elle est la vie même, un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro. Assurez-vous bien sur votre selle, ce récit sera une cavalcade. Vous injuriez toujours notre pauvre siècle. Mais qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? Sottise de toute espèce, la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquennat, l'encyclopédie et les drames. Le Barbier de Séville, acte 1, scène 3.
Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un jeune homme gâté par les dieux et dévoré d'impatience.
Les siècles se moquent des rendez-vous et souvent tardent à céder la place. Le XXe siècle, par exemple, ne commence que le 11 novembre 1918, après 4 ans de Grande Guerre. Il commence peut-être même l'année suivante, 1919, juste au début de l'été, lorsque des imbéciles signent le désastreux traité de Versailles. Et le 18e ne s'ouvre que le 1er septembre 1715, vers 8h10 le matin, lorsque Louis XIV finit par succomber à la gangrène, il aura régné 54 ans. Le roi est mort, se dit la France, bon débarras, et surtout bon débarras à sa maîtresse et sa femme, maintenant la trop dévote. Vive le nouveau roi, le très jeune Louis XV, qui n'a que 5 ans, et surtout, Vive, vive la liberté. Dès la Régence, les esprits s'ébrouent, comme sortis d'un long engourdissement. Après avoir courbé le dos sous un double joug, celui politique de l'absolutisme royal et celui intellectuel de l'obscurantisme religieux, on aspire à se redresser, à sortir de cette si longue enfance, à devenir enfin adulte. Un air nouveau flotte dans l'air, un air de gaieté, un air d'audace. Une passion se réveille, qui est celle de comprendre, donc de savoir. On se met à collectionner les curiosités. On s'enivre de science. Bientôt, on se promènera dans l'ensemble des connaissances. C'est ainsi qu'on appelle une encyclopédie. Et Diderot ne va plus tarder à nous en faire cadeau. Peu après paraîtra le dictionnaire philosophique de Voltaire, une machine de guerre contre l'infâme, l'infâme, en d'autres termes, l'ignorance faunée du catholicisme. Dans l'Europe entière, les lumières s'allument et monte une marée qui s'appelle Liberté. Pierre-Augustin voit le jour le 24 janvier 1732. Sur son berceau, les fées n'ont pas lésiné. Il naît à la bonne époque, dans la bonne famille et au bon endroit. Son père est André-Charles Caron, maître horloger. Sa mère, Marie-Louise Pichon, est qualifiée de bourgeoise. Il est le seul fils entouré de 5 sœurs. Quel plus doux entourage voulez-vous souhaiter? Choyé par Lisette, consolé par Jeanne-Marguerite quand énervé par Madeleine-Françoise, bercé chaque soir par l'aîné Marie-Joseph, le reste du temps protégé par Marie-Julie, dite Bécasse. Au moindre de ces mots, on s'esclaffe, ses bêtises enchantent, on comble ses caprices, quoi qu'il fasse ou commette, on l'aime, et toujours davantage. Un socle se construit, le plus solide pour y élever tous les étages d'une vie, il se nomme confiance, confiance en soi. Laquelle, comme chacun sait, peut virer à l'arrogance, mais ne brûlons pas les étapes, Pierre-Augustin n'est pour l'instant qu'un gamin adulé. D'après les dires et les chroniques, les Carons sont une famille où, s'il faut résumer, les parents grondent peu. L'enfance y est joyeuse, on rit, on lit, on chante, on aime la musique, on pratique viol, flûte, harpe et violoncelle. Cette joyeuse petite ruche vit rue Saint-Denis, à 2 pas des Halles, au cœur de la plus grande et plus bourdonnante capitale d'Europe, Paris. Il suffit de sortir de chez soi pour entrer au théâtre. Notons que Molière, au siècle précédent, est né tout près, rue des Vieilles Étuves, au coin de la rue Saint-Honoré. On dirait que l'humanité entière s'est donné rendez-vous là. De jour comme de nuit, une foule va et vient, flâne et rencontre, transporte et commerce, activité qui donne vite soif. Tous ces personnages alors s'attablent et sans fin commentent, ça vitupère les puissants, ça s'invective, ça vire vite à la rixe. Dans un coin, 2 amoureux roucoulent, l'enfant qui vit là, et donc passe se repasse, se fait l'œil et l'oreille à toutes ces images, à tous ces parlers. Il est déjà du genre à ne rien laisser perdre. Il a vu un barbier, entendu un coiffeur, s'est moqué d'un comte pestant contre l'ordure qui a maculé ses mocassins. Il s'est ému d'une femme encore belle, déjà ignorée par son mari, trésor de la rue. La bonne famille, le bon endroit, la bonne époque, bien-être est une chance. C'est aussi un talent. En Pierre-Augustin, chance et talent se mêleront toujours. Mais pour que prenne ce mystérieux alliage, il faut y ajouter le travail. Le voici justement qui frappe à la porte. Notre petit prince a 10 ans. Vous imaginez facilement qu'il serait volontiers demeuré dans l'unique compagnie de ses sœurs, avec pour seule école le spectacle de sa ville. Jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent à la joie. Mariage de Figaro, acte 1, scène 4. Bannissons le chagrin, il nous consume. Le mariage de Figaro, acte 2, scène 2. L'argent ne manquant pas trop chez les Carons, et les dons de Pierre-Augustin ayant été vite repérés, il aurait pu recevoir la meilleure éducation du temps. Pourquoi pas les jésuites ou les oratoriens? Le risque de l'excellence pédagogique, c'est de fabriquer des clones. On entre chez eux enfant, petit être prêt à tout, on en ressort magistrat, ingénieur, professeur. Ces congrégations, les jésuites et les oratoriens, dont on connaît l'intelligence, savent faire entrer dans leur moule les personnalités les plus diverses. Et hier comme aujourd'hui, imitées en cela par toutes les sociétés, elles n'ont que dédain pour l'intelligence de la main. En attendant de rejoindre les chopes, Pierre-Augustin se retrouve dans une école de campagne. Alfort, vous connaissez? Oui, près de Vincennes. Il s'y morfond et peu apprend. 3 ans passent. Sa mère se languit, son père s'impatiente, et il finit par venir récupérer celui dont il veut faire au plus vite son apprenti. Pierre-Augustin a maintenant 13 ans. Il va en demeurer 8 devant les engrenages, pince à la main et loupe vissée à l'œil droit. Il piaffe et il rue. Il s'absente, il trafique. De temps à autre, pour améliorer son ordinaire, figurez-vous qu'il va jusqu'à vendre la montre qu'on lui avait confiée pour une réparation. Exaspéré, son père le chasse. Mais vite le rappelle, la maisonnée s'ennuyait trop de l'enfant chéri. Ne l'oubliez pas, cet amour familial est l'unité première de cette vie qui vous semblera parfois décousue. On s'aime chez les Carons, on s'aime fort et toujours on s'aimera. C'est alors que Pierre-Augustin s'affronte à son premier défi, l'échappement. Ma vie n'a été qu'une suite de combats. C'est la devise de Beaumarchais, tirée du Mahomet de Voltaire. Du jour au lendemain, Pierre-Augustin conquiert une vraie notoriété. À la cour, on ne parle que de cet artisan, au talent si rare à cet âge et au sang si bouillant. D'ailleurs, quel visage a-t-il? On le dit avenant. On aimerait le connaître. Comme on l'imagine, l'invitation ne va pas rester longtemps sans réponse. Laissez-moi acheter vêtements qui conviennent et je saute dans un fiacre. Pas encore 22 ans et voici déjà tout Beaumarchais. Même si Pierre-Augustin ne porte pas encore ce nom. Inventif, obstiné, réactif, expert dans l'art de saisir les opportunités, surtout s'il s'agit de changer une défaite en victoire. Et, qualité ou défaut, étranger au doute. Ce premier duel préfigure bien d'autres batailles, qui toutes auront le même ressort, se voir reconnaître sa qualité d'auteur et les droits, notamment pécuniaires, qui y sont associés. Quelle que soit l'œuvre, scientifique, technique, commerciale ou littéraire, la création n'a pas de frontières et le créateur mérite autant l'argent qu'un industriel ou qu'un commerçant. Recevoir, prendre et demander, voilà le secret en 3 mots. Le mariage de Figaro, acte 2, scène 4. Certains jours, l'âge venant, et quelques souvenirs me revenant, je me propose d'écrire, à l'usage des jeunes gens pressés, un petit manuel de l'arriviste. Le premier chapitre ne pourra qu'être réservé à Beaumarchais, car la vitesse et la continuité de son ascension méritent le respect. À 20 ans, il n'était rien. Un artisan parisien parmi des milliers d'autres, un obscur godelureau qui trime, penché sur son établi. 2 ans plus tard, il fournit en montre la cour. N'importe qui s'en serait tenu là. Horloger du roi, le titre est prestigieux et les rémunérations des plus satisfaisantes. Un autre aurait joui de tels privilèges et de l'honneur d'avoir clientèle si prestigieuse. Pas Beaumarchais. C'est que son métier avait sa limite. Vous ne pouvez admirer votre fournisseur, voire même lui porter une sorte d'amour. Vous ne le rencontrerez que de loin en loin, pour une réparation ou pour un nouvel achat. Livrer Versailles, c'est bien, mais on doit pouvoir faire mieux. C'est camper au sommet que veut le véritable arriviste, pas lui rendre parfois visite. Alors, comment vivre à la cour quand on n'est pas encore noble? Pour ce faire, rien ne vaut d'entrer dans l'intimité d'un proche du Tout-Puissant. Pour l'heure, la reine Marie Leszczynska était inaccessible, sauf à se mettre au polonais, langue comme on sait difficile, car hérissée de consonnes. Pierre-Augustin attaqua donc les filles. Elles étaient 4, un nombre de sœurs qui ne faisait pas peur à notre ami, il en avait la pratique. Madame Adélaïde avait 25 ans, Madame Victoire 24, Madame Sophie 23, Madame Louise 20. Chance, elle s'ennuyait à mourir. Pour séduire le quatuor de demoiselles, Pierre-Augustin ne chercha pas longtemps. Avec les montres, il avait forcé la porte. Avec la musique, il allait s'installer dans les meubles. Grâce à la harpe, un instrument dont il jouait plutôt bien. Il en avait d'ailleurs, toujours bricoleur, amélioré le mécanisme. Et depuis une décennie, les femmes de la haute société s'étaient prises de passion pour cet instrument. Elles en aimaient les sons cristallins. Elles savaient surtout que jouer de la harpe rend plus gracieuse que taper frénétiquement sur un clavier ou souffler dans une flûte traversière. Vos mains se promènent sur les cordes comme pour de longues caresses. Vos têtes se penchent, vos yeux sourient et, soudain, de sous votre robe, un escarpin mutin surgit et pointe vers la pédale. Ajoutons qu'à l'exemple des montres, les harpes de ce temps-là étaient de véritables œuvres d'art. Leur montant de bois s'ornait de peintures, le plus souvent de scènes champêtres. Pour un visage, peut-on rêver cadre plus charmant? Par quelle manœuvre Pierre-Augustin parvint-il, après leur avoir vendu des montres, à devenir maître de musique des filles de Louis XV? Mystère, échappe au bas. Certes, on pouvait le qualifier d'amateur honnête, mais les concurrents ne devaient pas manquer, et d'un tout autre savoir que lui, et d'une virtuosité incomparable. En tout cas, le fait est, notre horloger a maintenant ses entrées régulières au palais. Outre jouer, Pierre-Augustin amuse et se rend indispensable. Il se rend courtisan, c'est-à-dire domestique. Il se charge de toutes les missions qu'on veut bien lui confier. Pierre-Augustin, ça ne vous ennuierait pas de me rapporter de Paris ce chocolat vanillé dont on parle tant? Pierre-Augustin, cher, mon chien tous, il paraît que près de Saint-Séverin, une femme soigne les bêtes comme personne. À l'instant, madame, je m'en charge. Trois de ces quatre nobles élèves ne trouveront jamais mari et resteront vieilles filles, selon l'expression sinistre encore en vigueur il y a peu. Quant à la quatrième, en entrant au Carmel, elle choisira le seul époux digne de son père Louis, le Christ soi-même. Il est à parier que dans ce désert de présence masculine, n'a jamais dû les quitter le souvenir de ce jeune horloger, si bien fait et si drôle, et libre, si libre, tant dans ses manières que dans ses propos. Mon Dieu, ce qui nous a fait rire! Comment peut-on de si basse naissance oser de telles insolences? Me les rappeler suffit à me faire devenir toute rouge. Aujourd'hui, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Le Barbier de Séville, acte 1, scène 2. » 1756. Pierre-Augustin vient de fêter ses 24 ans et il piaffe. Ses succès, aussi éclatants soient-ils, sont loin d'avoir apaisé son ambition. Pour continuer d'avancer dans la vie, il lui faut sans tarder trouver femme. On aura compris que l'amour, dans cette affaire, n'est en rien concerné. Sa vie de famille, à commencer par ses quatre sœurs éperdues de leur frère, lui offre chaque jour autant de sentiments qu'il en peut recevoir. Mais une épouse, ayant du bien, il va sans dire, le poserait plus solidement et plus haut dans la société. Avouons-le, son choix déçoit. À l'évidence, il pouvait trouver mieux. Il a beau avoir découvert le secret permettant de réguler l'allure des montres, il ne sait déjà pas calmer son impatience. Une hâte l'habite, qui jamais ne le quittera. Le temps chez lui ne cesse de prendre le mort et s'en va dans de longues cavales impossibles à maîtriser. L'élu est Madeleine Catherine Aubertin. Une encore jeune, 34 ans, et pour le moment épouse d'un vieillard, 49 ans, le dénommé Franquet. La dame est de la boutique une cliente de plus en plus assidue. Il semble bien qu'elle soit, dès le premier regard, devenue folle de ce gamin d'horloger. Son vieux mari occupe à Versailles la charge de contrôleur de la bouche du roi. En d'autres termes, il sert à table et tient comptabilité de la cuisine. Épuisé par cette lourde car double tâche, il veut s'en défaire. à qui mieux la vendre qu'à l'ami de sa femme. Pierre-Augustin s'endette, le voilà contrôleur, et bientôt marié, car le Franquet, ayant sans doute considéré qu'il gênait, a préféré quitter cette terre. Madeleine Catherine ne sera pas longtemps restée veuve. Une précipitation indécente que le ciel ne lui pardonne pas. La toute récente épouse à son tour décède, après une année seulement de nouvelles épousailles. Notre héros se retrouve veuf et entraîné dans le premier des innombrables contentieux qui vont animer sa vie. Le contrat de mariage stipule sans aucune ambiguïté que l'entièreté des biens de la communauté doit revenir aux survivants. Mais la famille de Madeleine Catherine ne l'entend pas de cette oreille. Comment cet aventurier de Caron peut-il oser prétendre toucher le bénéfice d'un si bref mariage? Et d'ailleurs, ce décès de leurs parents est-il bien certain qu'il soit naturel? Ce maudit horloger ne l'aurait-il pas quelque peu précipité? Odieux soupçons, procédure haineuse, les juristes s'étripent. Bientôt les héritiers aubertins découvrent la faille. Ce fameux contrat, les Tourtereaux avaient oublié de le faire enregistrer. En conséquence, la justice ne pourra que le déclarer nul. Et voilà Pierre-Augustin nu. Ou plutôt moins que nu, car son nouvel état l'avait autorisé à changer son train de vie, les revenus de sa femme lui ayant permis d'emprunter. Ne lui reste que des dettes. Ne nous inquiétons pas trop pour notre ami, c'est un prince du rebond, comme la suite va le prouver. De toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus bouffonne. Le mariage de Figaro, acte 1, scène 9. Au curieux des relations humaines, conseillons deux ouvrages informés et savoureux. D'abord celui de Charles Pinault Duclos, « Mémoire pour servir à l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle », et un trésor, le journal des inspecteurs de M. de Sartine. Ce Sartine, avant de se purifier la tête en devenant un légendaire ministre de la Marine, avait exercé la charge de lieutenant criminel du Châtelet, puis de lieutenant général de police. C'est à ce titre qu'il rémunérait une foule d'inspecteurs, le tenant informé du moindre mouvement d'alcôve dans la ville de Paris et ses proches alentours. Après lecture et duffichage des personnalités concernées, ces rapports étaient transmis au roi Louis XV, lequel, dit-on, s'en délectait. Preuve, s'il en était besoin, que le voyeurisme passe souvent par la lecture, et d'ailleurs également par l'oreille. On se rappelle avoir appris par l'affaire des écoutes que François Mitterrand prenait vif plaisir à tout apprendre de la vie très privée de certaines actrices pour lesquelles il semblerait qu'il ait eu comme un penchant. Revenons au siècle qui nous importe présentement. Voici un extrait d'un de ces rapports concernant une demoiselle Lacroix, figurante attitrée dans les ballets de l'opéra. Je cite. Le prince de Belozinski est parti depuis quelques jours pour l'Angleterre. Malgré toutes les promesses qu'il avait faites à la princesse son épouse de ne plus voir la demoiselle Lacroix, il lui rendait encore souvent des visites. Mais je crois qu'à son retour, il ne la verra plus, parce qu'il a découvert que M. de Beaumarchais, jeune homme fort aimable, fils de M. Caron, horloger du roi, la guerluchonnait souvent, rejoignant dans ses pratiques M. de Bussy, mousquetaire, depuis qu'il a quitté Mademoiselle La Forest, également du corps de ballet. Fin de citation. Pour parfaire votre information, sachez que le guerluchon est officiellement l'amant d'une femme mariée, mais que le sens du mot s'est étendu à toute activité intime, la plupart du temps rémunérée. Vous découvrirez également que perdure dans certaines régions de France, à commencer par le Berry, le culte d'un saint guerluchon dont les statues doivent être soit protégées, soit constamment renouvelées. En effet, ce saint patron de la fertilité est toujours représenté pourvu d'un attribut de taille prouvant sa capacité. Et figurez-vous que certaines femmes en mal d'enfant viennent nuitamment racler le bois et même la pierre du dit attribut pour s'en faire moult décoctions dont elles espèrent grand fruit. Ne comptez pas sur moi pour détailler ces phrases. Je me dois de respecter tant sa pudeur que la tranquillité de ses descendants. Mais ma passion de la vérité m'oblige à dire que le sieur Caron fils, nouvellement veuf et pas encore Beaumarchais, nonobstant ses innombrables autres occupations, profitait de sa bonne mine pour ne cesser de guerluchonner, ici et là et pas seulement dans le corps de ballet. En toute espèce de bien, posséder est peu de chose. C'est jouir qui rend heureux. Le Barbier de Séville, acte 4, scène 1. Un soir, à la Comédie-Française, dans la loge de l'actrice Adrienne Lecouvreur, le comte de Rochambeau apostrophe l'auteur que la salle vient d'acclamer. « Ah ouais, Voltaire enfin, avez-vous un nom ?» La réplique fuse. « Voltaire, monsieur. Je commence mon nom quand vous finissez le vôtre. » Pour ce mot, l'écrivain sera bastonné par les valets de l'aristocrate et puis embastillé, de 15 jours à 6 mois selon les sources, avec tout de même certains égards. Le gouverneur de la prison avait reçu cette lettre, je cite, « Le sieur Voltaire est d'un génie à avoir besoin de ménagement. Son Altesse royale a trouvé bien que j'écrivisse, que l'intention du roi est que vous lui procuriez toutes les douceurs et la liberté de la Bastille qui ne seront point contraires à la sécurité de sa détention. » Fin de citation. S'il l'a laissé nu financièrement parlant, ce bref mariage avec la veuve Aubertin n'a pas laissé Pierre-Augustin sans bénéfice. Jusqu'alors, il s'appelait Caron. Comment voulez-vous avancer dans la vie précédé par ces deux misérables petites syllabes. Vous me direz que des Capets étaient devenus rois de France, sans plus de référence, mais les temps avaient changé. Pierre-Augustin avait beau aimer et respecter son père, et montrer envers sa famille une fidélité active qui jamais ne se démentira, il avait en lui assez de réalisme pour savoir que Caron ne le mènerait à rien. Or Franquet, l'officier de bouche et feu mari de Madeleine Catherine, avait eu la bonne idée d'acquérir dans la région d'Arpajon, aujourd'hui dans l'Essonne, une terre de superficie modeste, appelée, faute de mieux par les autochtones, Beaumarchais, patronyme de l'ancien propriétaire. Ce mini-fief ne portait aucun droit, ni celui de pouvoir s'en baptiser, ni moins encore celui de conférer la noblesse. « Beaumarchais, Beaumarchais, se répète Caron, cela sonne. » Et me convient, beau, on me dit-elle, et marchait, 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 cela préfigure le commerce, qui, je le devine, sera ma compétence. Et marcher, avancer sans s'arrêter, ben, c'est ma nature même. Va donc pour Caron de Beaumarchais. Un jour, Caron aura le tact de se faire oublier, nous le garderons en respectueux souvenir, mais ne le regretterons pas. Toute proportion gardée, je me souviens du jour où j'ai écrit à Julien Gracq, pour lui demander l'autorisation de me rebaptiser du nom d'Orsena. Dans son roman « Le rivage des Sirtes », Orsena est le port imaginaire, mi-Venise, mi-Raguse. On y attend l'ennemi qui tarde à venir. De son écriture précise et fine, l'habitant légendaire de Saint-Florent-le-Vieil m'avait répondu par une malice « Attendons de voir comment vous allez habiter ma ville. » Un nom tout neuf, un pseudonyme est une maison. Une vraie maison avec un toit et des murs qui protègent de la pluie et du froid. Mais c'est aussi un espace encore vide qu'il va s'agir de remplir. Le nom nouveau, le pseudo-nom, le pseudonyme est un bateau sur lequel on emménage et puis on y embarque. Et à nous la pleine mer. Caron était mort ou quasi, Beaumarchais l'avait poussé dans les coulisses et n'allait plus quitter le devant de la scène.
Non vai farfallone amoroso, notte giorno di porno girando, delle belle cavando e riposo, narcisetto a rosino d'amor, delle belle cavando e riposo.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsena. À la technique, Alain Joubert. Réalisation Rafik Zénine.